Nous prions avant d'ouvrir et de lire dans les Écritures. Éternel, nous te prions de ressusciter nos vies et de les rendre claires et belles à la lumière de l'Évangile. Par ton Esprit, que ta parole nous touche au plus secret de nous-mêmes, mettant chaleur, paix et joie dans notre cœur. Que ta vie nous donne de nous lever et d'avancer sur notre chemin. Amen. Nous lirons ce matin un seul texte parmi les trois qui sont proposés aujourd'hui à la lecture et à la méditation des églises. C'est donc dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21, les versets 33-46, et vous avez le texte sur les feuilles que vous avez trouvées dans les recueils de cantiques. C'est donc Jésus est entré à Jérusalem, les rameaux sont passés, et dans le temple, il est interpellé par des grands prêtres qui contestent son autorité, et il a un grand discours avec beaucoup de paraboles, et c'est donc une de ces paraboles que nous lisons aujourd'hui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y construisit une tour, puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs chez les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses serviteurs. L'un, ils le battirent. Un autre, ils le tuèrent. Un autre encore, ils le lapidèrent. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya son fils en disant : Ils respecteront mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent : C'est l'héritier. Venez, tuons-le et nous aurons son héritage. Ils le prirent, le chassèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lorsque le maître de la vigne viendra, comment traitera-t-il donc ses vignerons ? Ils lui répondirent, « C'est misérable, il les fera disparaître misérablement et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront les fruits en leur temps. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? C'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Cela est venu du Seigneur, c'est une chose étonnante à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le règne de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Après avoir entendu ces paroles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Ils cherchaient à le faire arrêter, mais ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. C'est certainement la plus terrible des paraboles, dans un discours de Jésus particulièrement tendu, dans le temple de Jérusalem, en réponse aux grands prêtres et aux anciens du peuple, venus l'interroger sur son autorité, venus mettre en question son autorité. Une parabole sur la cupidité, sur le pouvoir, sur la violence, parce que Jésus, à travers elle, parle de sa mort toute proche. C'est aussi une parabole sur la relation à Dieu et donc également une parabole au sujet du Dieu de Jésus-Christ. Mais tant de violence, tant de sang versé, qui déborde de la parabole dans la réaction des interlocuteurs de Jésus, qui cherchent un moyen de le faire taire, mais y renoncent à ce moment. Oh, pas pour longtemps. Jésus sera bientôt mis à mort. Mais la parabole n'en sera pas épuisée pour autant. Les vignerons n'ont pas disparu. La cupidité et la violence n'ont pas cessé. Cette cupidité qui pousse les vignerons à vouloir s'approprier la vigne du maître de maison. Matthieu a reçu cette parabole de l'évangile de Marc, mais il la dramatise un peu plus. Cependant, il est vrai que toutes les générations, toutes les églises, tous les croyants sont concernés par le processus mortel dans lequel les vignerons sont entrés. S'approprier la vigne et ses fruits, vouloir devenir maître de ce qui n'est pas à eux, tel est le projet des vignerons auxquels la vigne a été louée par son propriétaire qui est parti en voyage. Dieu est parti en voyage, car il s'agit bien de lui à travers la figure du maître de maison, propriétaire de la vigne. Dieu est parti en voyage. Une jolie manière de dire que le Dieu d'Abraham et de Jésus-Christ n'est pas un Dieu qui occupe tout l'espace et tout le temps. Il n'est pas un Dieu qui pèse et qui intervient dans les décisions et les activités humaines en surveillant, en s'occupant de tout. Le maître est parti en voyage, dit la parabole. La vigne est louée à des vignerons qui en prendront soin à sa suite, lui qui a tout installé au mieux, vigne plantée, entourée d'une haie, pressoir pour le raisin à venir et tour bâtie pour veiller sur l'ensemble. Aux vignerons de travailler, tout est prêt. Aux humains de travailler et de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ce qui leur a été confié mais qui n'est pas leur propriété. Et de quoi s'agit-il? Que représente la vigne? Il y a bien sûr plusieurs possibilités. Le cadre agricole de la parabole invite déjà à y voir la terre. La terre comme lieu de vie commune, une vie commune qui prendrait un air de fête, de réjouissance, parce que le fruit de la vigne sert à produire le vin qui égaie les repas. Mais nous voyons, et nous savons bien, à quelle catastrophe conduit l'esprit de propriété de la terre, l'esprit d'appropriation de la terre, sans autre considération. L'image de la vigne renvoie également à un passage bien connu du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5, un poème appelé « Le chant de la vigne », dans lequel la vigne représente le peuple d'Israël. Cependant, dans le chant d'Ésaïe, du livre d'Ésaïe, qui est une mise en garde, l'avertissement est à destination de ce peuple. La vigne ne donne pas de bons fruits et le propriétaire pense à l'arracher. Jésus reprend cette image bien connue, mais avec un décalage, puisque une reprise instaure toujours un écart. Si la mise en garde demeure dans la parabole, la vigne ne représente plus le peuple. Et la mise en garde est à destination, cette fois, des grands prêtres, des pharisiens, des anciens, à qui Jésus s'adresse et qui comprennent très bien qu'ils sont visés. Ce qui permet de comprendre la vigne comme l'image de ce qui nous est révélé de Dieu et les moyens de cette révélation. Et cela ne nous appartient pas. Mais lorsque la religion, ses institutions, ses religieux, c'est-à-dire celles et ceux qui ont le savoir, le pouvoir, les compétences, l'influence, prétendent être propriétaires de ce qui ne leur appartient pas, le processus de la violence est engagé. Les vignerons s'affranchissent du contrat qui les lie au maître de maison qui leur fait confiance. Il est parti, il n'est pas là pour guetter et surveiller leurs faits et gestes. Et les vignerons prétendent alors travailler pour leur seul bénéfice. Et tous ceux qui viennent leur rappeler que la vigne n'est pas leur propriété sont molestés, tués, éliminés. Avant Jésus de Nazareth, le Christ crucifié au Golgotha, il y eut le prophète Jérémie, diffamé, frappé, jeté dans une citerne, jeté en prison. Il y eut le prophète Zacharie, tué entre le temple et l'autel. Et il y a eu Jean le Baptiste, prophète de la conversion et des fruits qu'elle porte, emprisonné et décapité pour avoir rappelé au roi Hérode l'illégalité de sa vie conjugale avec la femme de son frère. Les vignerons ont toute latitude pour s'occuper de la vigne, mais de cette liberté et de cette confiance, ils font une ambition et un orgueil, une avidité à s'affranchir de la relation au maître de la maison. Ils veulent se passer de lui, le faire disparaître comme maître pour prendre la vigne pour eux. Au lieu de faire leur part pour une belle récolte dont le maître pourra user à la fois selon le contrat qu'il a passé avec eux et à sa guise pour le reste, ils décident de capter ce qui ne leur appartient pas. Et ainsi, la tentation et la dérive des systèmes religieux sont clairement dévoilées et nous en sommes avertis, membres d'une assemblée, d'une église instituée, et d'une religion fondée sur la révélation de Dieu. Nulle église, nul groupe de chrétiens n'est propriétaire de ce qui vient de Dieu, de ce qui permet de le connaître et de se comprendre soi-même avec les autres dans le monde. La grâce ne nous appartient pas. Nous la laissons passer à travers nous et nous ne saurions y mettre des conditions et des jugements pour décider qui pourrait en bénéficier et qui en serait privé. Les Écritures ne nous appartiennent pas. Nous les ouvrons et nous invitons à les ouvrir avec des méthodes, avec le respect des textes, avec l'esprit critique, avec la liberté d'interprétation qui les fait résonner dans leur pluralité de sens et sans imposer de lecture unique. L'Esprit ne nous appartient pas. Nous nous disposons à son souffle vivifiant et nous tâchons de ne pas lui faire barrage, même quand il souffle, surtout quand il souffle, de manière inattendue, surprenante, de manière non conforme aux traditions et aux rites. Le Christ ne nous appartient pas. Lui dont la puissance de transformation et de devenir ressuscite pour nous et en nous, malgré tous les tombeaux fermés par les peurs, les hiérarchies, les dominations. La parole ne nous appartient pas. Nous nous mettons à son écoute pour mieux en témoigner à d'autres par nos actes, par nos propres paroles, sans l'encadrer dans des doctrines ou dans des dogmes. La foi ne nous appartient pas, même pas la nôtre, et encore moins celle d'autrui. Cette foi toujours travaillée de doutes, de questions, d'hésitations, et qui tient à une relation d'intériorité, une expérience de l'âme, et pas à une armature de savoir et d'articles de foi. La bénédiction ne nous appartient pas. Notre part est de la faire passer à d'autres, de les bénir et de les assurer de cette bonté fondatrice d'être et de vie, sans discrimination et sans préjugé. L'Église ne nous appartient pas. Celle qui est Église du Christ et qui oriente les églises instituées vers celles et ceux qui n'en font pas partie pour chercher avec eux des chemins de sens et de vie, mais pas pour les agréger dans une obéissance aveugle et indiscutée. L'esprit des grands prêtres et des pharisiens, c'est cet esprit du religieux qui sombre dans la volonté de maîtrise, dans la crispation d'un conservatisme apeuré, dans la cupidité du pouvoir. Et leur image de Dieu devient celle d'un Dieu qui empêche l'humain de profiter de tout ce dont il pourrait bénéficier, un Dieu qui empêche l'humain de déployer librement sa propre volonté, bref, un Dieu ennemi de l'humain, un Dieu à faire peur et dont il vaut mieux se débarrasser. Mais le Dieu de Jésus-Christ ne restreint pas l'humain ni sa liberté, il l'avise que l'orgueil, le pouvoir, la richesse, le souci de soi sont néfastes pour la liberté et pour la conscience de soi et d'autrui. Le Dieu de Jésus-Christ ne confisque rien à l'humain, alors que la cupidité et la violence qu'elle génère confisquent la possibilité de vivre. Ils respecteront mon fils, espère le maître de maison. Il espère, il n'impose pas, il ne venge pas la mort des serviteurs, il envoie ce qu'il a de plus précieux. Il espère, mais les vignerons restent insensibles et les grands prêtres et les pharisiens poursuivent la violence en répondant à Jésus « C'est misérable, le maître les fera disparaître misérablement. » Mais si Dieu se venge, comment le cycle de la violence pourrait-il être interrompu ? Comment pourrions-nous vivre, seulement survivre, avant notre mort, si Dieu maniait la mort comme un châtiment ? Comment ne pas avoir envie de faire disparaître ce Dieu violent et pour s'approprier sa puissance, son pouvoir ? Le Dieu de Jésus-Christ espère. Le Dieu révélé par Jésus le Christ espère, et une espérance qui n'est pas toujours déçue malgré toutes les mauvaises nouvelles, malgré les naufrages, malgré les catastrophes, malgré les bombardements. L'espérance que le Christ soit respecté, lui qui naît et grandit en chaque humain vivant de foi, c'est-à-dire de confiance et d'amour. L'espérance de l'humain relevé hors de l'engrenage de la mort. Les vignerons voient seulement dans la venue du Fils l'opportunité de se débarrasser définitivement du Maître. C'est l'héritier, tuons-le et nous aurons son héritage. Quelle arrogance, quelle violence, et surtout avec quelle facilité l'une et l'autre se sont incrustées dans l'esprit des vignerons. Mais que reste-t-il de l'héritage si l'héritier est tué ? Car cet héritage n'est pas un pouvoir, ni un avoir, ni un savoir. Lorsqu'un héritage est détourné, capté, il n'est plus un héritage et il perd sa puissance d'héritage immérité et qui ne peut qu'être reçu. Lorsque l'héritage est volé, il ne produit plus du tout l'effet que produit un héritage qui est d'abord reconnaissance d'un statut. C'est à ce sujet que quelques années avant Matthieu, l'apôtre Paul écrivait aux Galates, soucieux de rester dans les bonnes grâces divines par l'obéissance à des lois et à des prescriptions, Paul écrivait « Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu ». Héritier, héritière de la promesse faite à Abraham, une bénédiction renouvelée et abondante dans laquelle chacun est instauré dans son existence propre, sans mérite, par amour seulement, par la grâce seule. Alors retour à la loi des Galates et injustice et violence des vignerons avides. Face à ces dérives, la religion, les religieux, les églises, les croyants sont avisés, mais ils sont également encouragés Car l'injustice et la violence, même s'il est facile d'y céder, ne sont pas des fatalités. La pierre qui avait été rejetée est devenue la pierre d'angle. Avec le Christ, se construisent des relations fondées sur la reconnaissance et la confiance, assumant les faiblesses et les fragilités de l'humain. Des relations où les vignerons œuvrent non pour leur seul intérêt, mais pour le partage, l'hospitalité, la joie d'un bon vin. Des relations où les héritiers et héritières que nous sommes peuvent accueillir paisiblement, fraternellement, généreusement, d'autres héritiers et héritières, et aussi des hommes et des femmes qui cherchent une parole qui leur dirait « Il est bon que tu sois ». Amen.